Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Cinquième épisode.
Les fameux comices arrivèrent. Dès le matin de la solennité, tous les habitants s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie, une tente dans un pré était dressée pour le festin, et au milieu de la place, devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompes.
Voici de gentilles pâquerettes. Et de quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays. C'est Jean Cueillet. Qu'en pensez-vous?
Est-ce que vous êtes amoureux?
Qui sait?
C'était le moment de l'examen, et les cultivateurs, les uns après les autres, entraient dans une manière d'hippodrome que formait une longue corde portée sur des bâtons. Les bêtes étaient là, le nez tourné vers la ficelle, et alignant confusément leurs croupes inégales. Des messieurs avançaient d'un pas lourd, examinant chaque animal, puis se consultaient à voix basse. Tout en se moquant des comices, Rodolphe s'arrêtait parfois devant quelque beau sujet, que Madame Bovary n'admirait guère. Il s'en aperçut, et alors se mit à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville à propos de leur toilette, puis il s'excusa lui-même du négligé de la sienne.
D'ailleurs, quand on habite la campagne...
Tout est peine perdue.
C'est vrai. Songez que pas un seul de ces braves gens n'est capable de comprendre même la tournure d'un habit.
Alors ils parlèrent de la médiocrité provinciale, des existences qu'elle étouffait, des illusions qui s'y perdaient.
Aussi je m'enfonce dans une tristesse.
Vous ? Mais je vous croyais très gai.
Ah oui, d'apparence. Parce qu'au milieu du monde, je sais mettre sur mon visage un masque railleur. Et cependant, que de fois, à la vue d'un cimetière, au clair de lune, je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir.
Oh ! Et vos amis ? Vous n'y pensez pas ?
Mes amis ? Lesquels, donc ? Qui s'inquiète de moi ? Oui, tant de choses m'ont manqué. Toujours seul. Ah, si j'avais eu un but dans la vie... Si j'avais trouvé quelqu'un, oh, comme j'aurais dépensé toute l'énergie dont je suis capable. J'aurais surmonté tout, brisé tout.
Il me semble pourtant que vous n'êtes guère à plaindre.
Ah, vous trouvez?
Car enfin, vous êtes libre? Riche?
Ne vous moquez pas de moi.
Et elle jurait qu'elle ne se moquait pas, quand un coup de canon retentit. Aussitôt, on se poussa pêle-mêle vers le village. C'était une fausse alerte. Monsieur le préfet n'arrivait pas, et les membres du jury se trouvaient fort embarrassés, ne sachant s'il fallait commencer la séance ou bien attendre encore. Enfin, au fond de la place parut un grand landau de louage traîné par deux chevaux maigres que fouettait à tour de bras un cocher en chapeau blanc. Cependant, Rodolphe, avec Madame Bovary, était monté au premier étage de la mairie dans la salle des délibérations. Et, comme elle était vide, il avait déclaré que l'on y serait bien pour jouir du spectacle plus à son aise.
Messieurs, qu'il me soit permis d'abord de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque...
Je devrais me reculer un peu.
Pourquoi ?
C'est qu'on pourrait m'apercevoir d'en bas. Puis j'en aurai pour 15 jours à donner des excuses et... Avec ma mauvaise réputation...
Oh, vous vous calomniez.
Non, elle est exécrable, je vous jure. Du reste, peut-être, au point de vue du monde, a-t-on raison.
Comment cela ?
Et quoi? Ne savez-vous pas qu'il y a des âmes assez...
Le temps n'est plus, messieurs.
Tourmentées. Il leur faut tour à tour le rêve et l'action, les passions les plus pures, les jouissances les plus furieuses, et on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies.
Nous n'avons pas même cette distraction, nous autres pauvres femmes.
Triste distraction, car on n'y trouve pas le bonheur.
Mais le trouve-t-on jamais?
Oui, il se rencontre un jour.
Pour souvenir ces sombres tableaux, je reporte mes yeux sur la situation actuelle de notre belle patrie. Qui vois-je?
Un jour, tout à coup, et quand on en désespère, alors des horizons s'entrouvrent, c'est comme une voix qui crie « Le voilà !» Vous sentez le besoin de faire à cette personne la confidence de votre vie, de lui donner tout, de lui sacrifier tout. On ne s'explique pas, on se devine, on s'est entrevu dans ses rêves.
Et il la regardait.
Et c'est là ce que vous avez compris.
Enfin, il est là, ce trésor que l'on a tant cherché. Là, devant vous, il brille, il étincelle. Cependant, on en doute encore. On ose y croire. On en reste ébloui, comme si l'on sortait des ténèbres à la lumière.
Et en achevant ces mots, Rodolphe ajouta la pantomime à sa phrase. Il se passa la main sur le visage, tel qu'un homme pris d'étourdissement, puis il la laissa retomber sur celle d'Emma. Elle retira la sienne.
Vous trouvez, en effet, plus de patriotisme que dans les campagnes, plus de dévouement à la cause publique, plus d'intelligence en un mot. Et je n'entends pas, messieurs, cette intelligence superficielle, vain ornement des esprits oisifs, mais plus de cette intelligence profonde et modérée, fruit du respect des lois et de la pratique des devoirs.
Oh, encore. Toujours les devoirs.
Et qu'aurais-je à faire, messieurs ?
Je suis assommé de ces mots-là. Et parbleu, le devoir, c'est de sentir ce qui est grand, de chérir ce qui est beau, et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec les ignominies qu'elle nous impose.
Cependant, il fait bien.
Pourquoi déclamer contre les passions ? Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur la terre ? La source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts. De tout, enfin.
Qui en confectionne un aliment pour le pauvre comme pour le riche.
Mais il faut bien suivre un peu l'opinion du monde et obéir à sa morale.
Ah, c'est qu'il y en a deux. La petite, la convenue, celle des hommes, celle qui varie sans cesse et qui braille si fort, s'agite en bas, terre à terre, comme ce rassemblement d'imbéciles que vous voyez. Mais l'autre, l'éternelle, elle est tout autour et au-dessus, comme le paysage qui nous environne et le ciel bleu qui nous éclaire.
De ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos tables et des œufs.
Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas? Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutés, calomniés. Et s'il se rencontre enfin deux pauvres âmes, tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre. Elles essaieront cependant, elles battront des ailes, elles s'appelleront. Oh, n'importe, tôt ou tard, dans 6 mois, 10 ans, elles se réuniront, s'aimeront, parce que la fatalité l'exige, et qu'elles sont nées l'une pour l'autre.
Il se tenait les bras croisés sur ses genoux, et ainsi, levant la figure vers Emma, il la regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d'or s'irradiant tout autour de ses pupilles noires, et même elle sentait le parfum de la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors une mollesse la saisit. Elle se rappela ce vicomte qui l'avait fait valser à la Vaubyessard, et dont la barbe exhalait, comme ses cheveux-là, cette odeur de vanille et de citron. Et machinalement, elle entreferma les paupières pour la mieux respirer. Mais dans ce geste qu'elle fit en se cambrant sur sa chaise, elle aperçut au loin, tout au fond de l'horizon, la vieille diligence l'hirondelle. C'était dans cette voiture jaune, par cette route là-bas, que Léon était parti pour toujours. Elle crut le voir en face, puis tout se confondit, des nuages passèrent. Il lui sembla qu'elle tournait encore dans la valse au bras du vicomte et que Léon n'était pas loin, qu'il allait venir. et cependant elle sentait toujours la tête de Rodolphe à côté d'elle. La douceur de cette sensation pénétrait ainsi ses désirs d'autrefois, et comme des grains de sable sous un coup de vent, ils tourbillonnaient dans la bouffée subtile du parfum qui se répandait sur son âme.
Ainsi nous, pourquoi nous sommes-nous connus ? Quel hasard l'a voulu ? C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre.
Et il saisit sa main. Elle ne la retira pas.
Et maintenant, mesdames et messieurs, la remise de prix.
Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous, savais-je que je vous accompagnerais ? 100 fois même, j'ai voulu partir. Et je vous ai suivi. Je suis resté. Comme je resterai ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie. Car jamais je n'ai trouvé dans la société de personne un charme aussi complet. Aussi, moi, j'emporterai votre souvenir. Mais vous m'oublierez. J'aurais passé comme une ombre. Non, n'est-ce pas ? Je serai quelque chose dans votre pensée, dans votre vie.
Rodolphe lui serrait la main et il la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée. Mais soit qu'elle essayât de la dégager ou bien qu'elle répondît à cette pression, elle fit un mouvement des doigts.
Oh, merci. Vous ne me repoussez pas. Vous êtes bonne. Vous comprenez que je suis à vous. Laissez que je vous voie, que je vous contemple.
Rodolphe ne parlait plus. Il se regardait. Un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches, et, mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent. Six semaines s'écoulèrent. Rodolphe ne revint pas. Un soir, enfin, il parut. Il s'était dit, le lendemain des comices,
« N'y retournons pas de si tôt, ce serait une faute. Si du premier jour elle m'a aimé, elle doit, par l'impatience de me revoir, m'aimer davantage. »
Et il comprit que son calcul avait été bon, lorsqu'en entrant dans la salle, il aperçut Emma pâlir. Rodolphe resta debout, et à peine si Emma répondit à ses premières phrases de politesse.
J'ai eu des affaires. J'ai été malade.
Gravement ?
Eh bien, non. C'est que je n'ai pas voulu revenir.
Pourquoi ?
Vous ne devinez pas ? Emma.
Monsieur.
Vous voyez bien que j'avais raison de vouloir ne pas revenir. Car ce nom qui remplit mon âme, vous me l'interdisez. Madame Bovary. Tout le monde vous appelle comme cela. Ce n'est pas votre nom d'ailleurs. C'est le nom d'un autre. D'un autre. Et cependant, aujourd'hui, je ne sais quelle force encore m'a poussé vers vous. Car on ne lutte pas contre le ciel. On ne résiste pas au sourire des anges. On se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable.
C'était la première fois qu'Emma s'entendait dire ces choses. Et son orgueil, comme quelqu'un qui se délasse dans une étuve, s'étirait mollement et tout entier à la chaleur de ce langage.
Mais si je n'ai pas pu vous voir, du moins j'ai bien contemplé ce qui vous entoure. La nuit, toutes les nuits, je me relevais. J'arrivais jusqu'ici, je regardais votre maison, le toit qui brillait sous la lune, les arbres du jardin qui se balançaient à votre fenêtre, et une petite lampe, une lueur qui brillait à travers les carreaux. Dans l'ombre.
Vous ne saviez guère qu'il y avait là, si près et si loin, un pauvre misérable.
Oh, vous êtes bon.
Non, je vous aime, voilà tout. N'en doutez pas. Dites-le-moi. Un mot. Un seul mot. Que vous seriez charitable de satisfaire une fantaisie. J'ai toujours voulu visiter votre maison.
Je n'y vois pas d'inconvénient.
Bonjour, docteur.
Le médecin, flatté de ce titre inattendu, se répandit en obséquiosité. Et l'autre en profita pour se remettre un peu.
Madame m'entretenait de sa santé.
Charles l'interrompit. Il avait mille inquiétudes, en effet. Les oppressions de sa femme recommençaient. Alors, Rodolphe demanda si l'exercice du cheval ne serait pas bon.
Certes, excellent, parfait. Voilà une idée. Tu devrais la suivre.
Et comme elle objectait qu'elle n'avait point de cheval, M. Rodolphe en offrit un. Elle refusa ses offres, il n'insista pas. Et dès qu'ils furent seuls...
Pourquoi n'acceptes-tu pas les propositions de M. Boulanger ?
Elle prit un air boudeur, chercha mille excuses, et déclara finalement que cela peut-être semblerait drôle.
Je m'en moque pas mal. La santé avant tout. Tu as tort.
Et comment veux-tu que je monte à cheval puisque je n'ai pas d'Amazone ?
Il faut en commander une.
L'Amazone la décida.
Bonne promenade.
Un malheur arrive si vite, de la prudence surtout. De la prudence !
Au bas de la côte, Rodolphe lâcha les rênes. Ils partirent ensemble d'un seul bond. Puis en haut, tout à coup, les chevaux s'arrêtèrent. Emma fermait à demi les paupières pour reconnaître sa maison, et jamais ce pauvre village où elle vivait ne lui avait semblé si petit. À côté, sur la pelouse, entre les sapins, une lumière brune circulait dans l'atmosphère tiède. La terre, roussâtre comme de la poudre de tabac, amortissait le bruit des pas, et du bout de leur fer en marchant, les chevaux poussaient devant eux des pommes de pin tombées. Rodolphe et Emma suivirent ainsi la lisière du bois. Elle se détournait de temps à autre afin d'éviter son regard. Et alors, elle ne voyait que les troncs des sapins alignés, dont la succession continue l'étourdissait un peu. Les chevaux soufflaient, le cuir des selles craquait. Au moment où ils entrèrent dans la forêt, le soleil parut.
Ah, Dieu nous protège.
Vous croyez ?
Avançons.
Je suis fatiguée.
Ils descendirent. Rodolphe attacha les chevaux. Elle allait devant, sur la mousse, entre les ornières. Mais sa robe trop longue l'embarrassait, bien qu'elle la portât relevée par la queue, et Rodolphe, marchant derrière elle, contemplait entre ce drap noir et la bottine noire la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité. Ils arrivèrent à un endroit plus large où l'on avait abattu des baliveaux. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre renversé et Rodolphe se mit à lui parler de son amour. Il ne l'effraya point d'abord par des compliments. Il fut calme, sérieux, mélancolique. Emma l'écoutait la tête basse, mais à cette phrase...
Est-ce que nos destinées maintenant ne sont pas communes ?
Non, vous le savez bien, c'est impossible. Ah, tenez, n'en parlons plus. Où sont les chevaux ? Retournons.
Emma !
Oh, vous me faites peur ! Vous me faites mal ! Partons.
Puisqu'il le faut. Qu'aviez-vous donc ? Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Vous vous méprenez sans doute. Vous êtes dans mon âme, comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide et immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon amie, ma sœur, mon ange.
J'ai tort. J'ai tort, je suis folle de vous entendre.
Pourquoi ? Emma. Emma.
Radolphe.
Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir. Et défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Les ombres du soir descendaient. Le soleil horizontal, passant entre les branches, lui éblouissait les yeux. Ça et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris, en volant, eussent éparpillé leurs plumes. Le silence était partout. Quelque chose de doux semblait sortir des arbres. Elle sentait son cœur dont les battements recommençaient et le sang circuler dans sa chair comme un fleuve de lait. Alors elle entendit tout au loin, au-delà du bois, sur les autres collines, un cri vague et prolongé, une voix qui se traînait, et elle l'écoutait silencieusement, se mêlant comme une musique aux dernières vibrations de ses nerfs émus. Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassées. Ils s'en revinrent à Yonville par le même chemin. Rien autour d'eux n'avait changé et pour elle, cependant, quelque chose était survenu de plus considérable que si les montagnes se fussent déplacées. En entrant dans Yonville, elle caracola sur les pavés. On la regardait des fenêtres. Son mari, au dîner, lui trouva bonne mine, mais elle eut l'air de ne pas l'entendre lorsqu'il s'informa de sa promenade.
Emma.
Quoi ?
Eh bien, j'ai passé cet après-midi chez Monsieur Alexandre. Il a une ancienne pouliche encore fort belle et qu'on aurait, je suis sûr, pour une centaine d'écus. Pensant que cela te serait agréable, je l'ai retenu. Je l'ai acheté. Ai-je bien fait ?
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. Cinquième épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Julien Honoré, Hervé Pierre, Emmanuel Matt, Jean-Charles Dizazzo, Hervé Axel Colombel, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillot. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Manuel Couturier, Éric Villenfant. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff. Remerciements à Jacques et Véronique Verlet pour leur accueil amical.